France Musique. France Musique, guitare, Sébastien Linares.
Bonjour, c'est une joie de vous retrouver chaque semaine à l'antenne de France Musique pour notre rendez-vous dédié à la guitare et aux instruments à cordes pincées. Bienvenue à tous. C'est un duo de guitares que nous recevons aujourd'hui, un nouveau duo formé par deux guitaristes à la carrière déjà bien avancée et bien remplie, puisque tous deux sont des concertistes aguerris. L'un est professeur au CNSM de Paris, l'autre enseigne au CRR de Tours. Tristan Manoukian et Rémi Jousselme se sont réunis autour d'un programme varié, exigeant, allant de la musique de Meredith Monk à celle de Béla Bartók. Ils viendront nous en parler et nous jouer quelques extraits de ce projet original en deuxième partie de notre émission. En musique, tout est affaire de sonorité. Le guitariste classique passe sa vie à la travailler, à y réfléchir, à l'affiner de manière à ce qu'elle devienne un peu comme le reflet acoustique de son âme, de sa personnalité. Sa sonorité, il l'utilise comme un outil pour rencontrer et comprendre le compositeur et pour mettre en lumière la partition. Le guitariste de jazz n'a peut-être pas toujours les mêmes objectifs. Souvent, il se révèle dans la multiplicité de ses sonorités. Chaque projet est une occasion de trouver une autre couleur et un autre aspect de soi-même. On a le cœur brisé dans Guitare et dans le monde du jazz et de la musique en général, puisqu'il y a quelques jours, on apprenait la disparition brutale du génial guitariste Sylvain Luc, très jeune, à 58 ans. Mais c'est pas seulement l'âge qui fait sa jeunesse, c'est sa vitalité artistique, sa capacité à inventer la musique et à se réinventer lui-même. C'était quelqu'un qui jouait beaucoup, tout le temps, avec les grands jazzmen de ce monde dont il faisait partie. Son immense talent, sa gentillesse et son humanité faisaient qu'il était demandé partout. Il avait cette stature internationale et on a du mal à imaginer le monde musical sans lui. Alors on va peut-être pas trop parler aujourd'hui et se concentrer sur sa musique. Il nous laisse une discographie magnifique. On est en train de l'écouter en solo sur une guitare nylon. Thank you. Les yeux dans l'eau, un extrait d'un disque qui s'appelle D'une rive à l'autre, un disque que Sylvain Luc avait enregistré avec sa compagne, la guitariste classique Marylise Floride, à qui nous pensons beaucoup et que nous embrassons très fort. Ils formaient ensemble un duo dans lequel ils improvisaient, ils composaient, revisitaient aussi quelques classiques du répertoire de guitare. Et ils réunissaient ces deux approches de la musique et de la sonorité dont je vous parlais tout à l'heure. Thank you. Andalise, le dernier titre du disque D'une rive à l'autre, Marylise Floride et Sylvain Luc en duo de guitare, c'est magnifique, c'est extrêmement émouvant, comme l'ensemble de ce CD paru sur le label Jade, et on entend l'incroyable variété du vocabulaire de Sylvain Luc. Aucun plan caractéristique du jazz, aucun réflexe, pas de phrase toute faite. Tout est inventé sur le moment, tout est frais. Et la musique se passe dans l'écoute et dans l'interaction. Ici, pas de doute, c'est du jazz. Et quel jazz, Sylvain Luc est en duo avec Birelli Lagraine sur So What de Miles Davis. Un So What qui envoie, ultra virtuose. Les deux musiciens s'amusent, se challengent et s'échangent des fusées chromatiques. C'est très réjouissant et oui, c'est bien le même Sylvain Luc que nous avons entendu tout à l'heure avec Marylise Floride. C'est un musicien qui semble comme ça pouvoir parler tous les langages avec le même à-propos. Sylvain Luc en duo, d'abord avec Birelli Lagraine, puis avec Richard Galliano, dans deux thèmes très français. Le premier s'appelle justement « Made in France », composé par Birelli. Et le deuxième, c'était « La valse des forains » d'Henri Sauguet. Et c'est aussi une des particularités de Sylvain Luc d'avoir cet accent français, ce goût pour un répertoire terroir qu'il parvient à le sublimer. Et grâce à son souffle créatif, ses chansons traversent comme ça les frontières.
France Musique, guitare, guitare. Sébastien Linares.
On est aujourd'hui plongé dans l'art du très regretté Sylvain Luc qui avait cette capacité à faire vivre toutes les musiques dans son jazz. On l'a vu, des chansons françaises, des airs traditionnels, des partitions classiques aux côtés des grands standards américains. Et on va le constater encore tout de suite en enchaînant Satin Doll de Duke Ellington avec Que reste-t-il de nos amours de Charles Trenet. Sylvain Luc est en solo à la guitare électrique cette fois-ci.
Thank you.
Lorsque je sors un disque, je ne suis jamais fier de quoi que ce soit. La seule certitude que j'ai, c'est que je ne sais pas, disait Sylvain Luc dans une interview accordée à Guitar Classic Magazine. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a vraiment envie de l'écouter. On sait qu'on sera captivé, on sait qu'on sera surpris. C'est le chanteur Sting qui disait en interview que lorsqu'il n'était pas surpris par la musique, il zappait au bout de 8 mesures. Écouter Sylvain Luc, c'est être assuré de découvrir des choses et d'être accompagné en territoire inconnu. Mais surprise, ça ne rime pas forcément avec complexité. Dans son dernier CD, intitulé « Simple Songs », le guitariste est en solo, en acoustique, et parvient à renouveler des standards en toute simplicité. Et je vous propose d'écouter tout de suite deux extraits. Change the World d'Eric Clapton, suivi de What Are You Doing the Rest of Your Life de Michel Legrand.
Thank you.
Voilà le grand guitariste Sylvain Luc en toute simplicité sur sa guitare acoustique qui nous fait cadeau de cette musique qui va nous accompagner très longtemps et qu'on n'a pas fini d'explorer et de redécouvrir.
France Musique, guitare, guitare, Sébastien Linares.
Et nous allons maintenant accueillir nos invités du jour, Rémi Joucelme et Tristan Manoukian, pour leur nouveau projet. Et avant de les écouter à ce micro, je vous propose d'entendre un enregistrement de Rémi Joucelme en solo dans un extrait d'une transcription pour guitare de la Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, une transcription réalisée par Tristan Manoukian. Rémi Joucelme et Tristan Manoukian, bonjour messieurs.
Bonjour Sébastien.
Alors cette transcription de la Pavane de Ravel qu'on vient d'écouter, est-ce que c'était le début de votre collaboration ou est-ce que ça avait commencé avant ?
Ben, je pense que c'est la première forme de collaboration qu'on a eue. Bon, on se connaît depuis plus longtemps que ça, mais c'est vrai que voilà, quand j'ai proposé cet arrangement à Rémi, on n'avait pas commencé à jouer en duo ensemble. Et donc oui, c'était la première collaboration.
Okay. Exactement, oui. Moi je l'ai entendu... bricolé. Il était en train de faire la transcription, je l'ai entendu essayer et je me suis dit, oh là là, c'est magnifique, je veux absolument jouer ça. Ça faisait un moment qu'on échangeait sur beaucoup de sujets. D'accord. J'ai toujours admiré l'arrangeur incroyable qui est Tristan. Et on a beaucoup échangé sur la pédagogie, sur la musique. Et voilà.
Et c'est la première fois que vous jouez ensemble en duo. Vous avez déjà joué avant. Comment est née l'idée de ce programme ?
Ensemble, en fait, on a commencé grâce à Pierre Milan qui nous a programmé à Narbonne. On a eu un premier concert dans lequel on a introduit beaucoup d'autres pièces, peut-être un peu plus traditionnelles, enfin du Nazaret, du Debussy, du Schubert. Okay. Et bon, Rémi est toujours à la recherche d'une identité toujours très forte dans ses programmes, hein. C'est ce qui fait, je pense, sa personnalité en soliste aussi. Mmh. Et il a insisté pour qu'on trouve une identité. Et on jouait John Cage aussi, donc on a gardé John Cage, on a gardé les micro-pieds de Sas. Et puis on a découvert Monk dans la foulée, Meredith Monk. Et là, ça a été un petit peu le coup de foudre. Donc, du coup, on a arrangé des pièces. Et puis, on a construit le programme autour de ça et de la suite de Bartok.
D'accord. Donc, l'idée était vraiment de faire du répertoire original. C'est une nécessité comme ça de faire un répertoire qui n'a pas été joué avant.
C'est ça, l'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer à deux la musique qu'on ne peut pas jouer forcément tout seul. Bartok, tout seul, il y a quelques pièces qui sont possibles, mais c'est quand même très délicat. Et c'était un vieux rêve de jouer du Bartok à la guitare. Pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne incroyablement à l'instrument. On le voit là, parce que dans les pièces que Tristan a arrangées, il y a des choses qui sont très idiomatiques sur l'instrument. Il y a beaucoup d'intervalles qui sont parallèles, donc ça fait des positions à déplacer sur l'instrument. Ça fonctionne admirablement. Okay. Et le grand plaisir de jouer des pièces qui n'ont jamais été jouées à la guitare, c'est une merveille.
Et donc les arrangements, vous vous en occupez vous-même ?
Donc du coup, c'est moi qui arrange, disons, 90% de la pièce. Après, Rémi intervient une fois que l'arrangement est fait. En tout cas, c'est comme ça qu'on a procédé jusqu'à maintenant. Ça peut évoluer. Hein. Je pense qu'il est assez intéressé parfois à arranger. Mm-hmm. Mais voilà, il y a des retouches en fonction de... les arrangements, c'est toujours en trois temps. De toute façon, il y a le premier jet. Après, on le travaille, on en fait quelque chose. Puis après, on le joue en concert. Et là, on s'aperçoit de certaines choses qu'il faut encore remanier pour que ça sonne vraiment bien et que ça soit réellement guitaristique. Donc voilà, on fait nos arrangements nous-mêmes.
Et est-ce que quand on joue des transcriptions, est-ce que on élargit le spectre de la guitare ou est-ce que on amène la musique dans des modes de jeu que l'on connaît déjà? Par exemple, Rémi, vous qui jouez des transcriptions.
Les deux,
capitaine. C'est ça.
Mais oui, parce que ce qui est vraiment un petit plus déjà, c'est beaucoup la richesse de timbre. Là, on le voit pour le Bartok, par exemple. Oui. Bien sûr que les pianistes peuvent colorer le son, mais à la guitare, c'est démultiplié. Donc, on joue beaucoup avec ça. Et aussi, c'est vrai que les arrangements permettent un dialogue. On fait dialoguer les voix. Il y a quelque chose de vraiment très riche de ce côté-là.
Tout à fait. Et bien, on va vous écouter tout de suite. Folk Dance de Meredith Monk.
Thank you.
Meredith Monk, folk dance, Rémi Joussel, mais Tristan Manoukian à la guitare. Magnifique cette pièce, donc d'une esthétique comme ça, minimaliste et très incarnée à la fois. C'est une musique qui rassemble la musique minimaliste.
Moi je trouve, c'est-à-dire que c'est une musique qui transcende un peu les styles, les genres. J'ai l'impression que c'est une musique qui pourrait parler à tout le monde. On revient sur l'essence, une certaine, j'allais dire, trance, une musique de... musique de trance que la, voilà, que la musique classique n'avait pas, entre guillemets. Voilà, après toute cette complexification des données qu'il y a eu au cours du XXe siècle, les Américains ont eu envie de revenir à une essence, à, voilà, la répétition d'un matériau qui resserré, des déphasages, des choses simples et, comment dire, qui parlent directement au corps et au cœur. Moi, c'est, voilà, j'ai grandi avec Reich, Glass, John Adams et Meredith Monk, on la connaissait pas, moi je la connaissais pas, et c'est grâce à le disque, quoi, encore une fois, un superbe disque.
La Tumia.
Ouais.
Sur un piano.
La Tumia et Wagner, magnifique disque sur la musique américaine, et on a eu un petit coup de cœur pour Ellis Island, et ensuite on a découvert d'autres pièces.
Après, bon, Ellis Island, en plus, bon, moi ça me parle beaucoup aussi parce que bon, c'est la musique d'un film, et il se trouve qu'à la même époque à peu près que le film Meredith Monk a fait la musique, Georges Perec aussi a fait son film Ellis Island. Et donc, c'est voilà, cette île qui a accueilli tant de migrants. Voilà, c'était un sujet en plus qui nous parlait beaucoup. Et après ce petit coup de cœur, voilà, on a poursuivi l'aventure et on a dû donc contacter Meredith Monk par l'intermédiaire de son assistant pour obtenir les droits d'arrangement et elle a validé. Donc, hein, parce que sinon on n'aurait pas le droit de jouer
elle
cette pièce.
Elle a validé la transcription.
Elle a validé folk dance et les autres pièces sont en attente. Enfin, on doit les faire passer à la validation de la compositrice.
D'accord. Et en fait, c'est vrai qu'on parle de musique minimaliste, mais on a souvent l'image d'une musique qui est un peu toujours pareil suivant les compositeurs, alors qu'en fait il y a des musiques minimalistes, c'est très différent d'écouter du Glass, du Reich ou ce que vous venez de nous proposer.
Oui, tout à fait. Oui. Reich, il joue beaucoup sur les déphasages avec des influences de musique africaine, notamment, enfin pas que, hein, ça serait très réducteur, mais enfin voilà, pour faire rapide. Glass, il joue vraiment sur une sorte d'hypnotisme. Il essaye de répéter à l'envi pour perdre finalement son auditeur. Et Monk, elle est un petit peu à la croisée des chemins. Elle utilise un peu de déphasage, un peu de répétition. Et en même temps, elle est folk dance, la pièce qu'on a jouée, justement, elle utilise une relation à la musique populaire qui est un peu plus forte que chez les deux autres.
Ancrée peut-être, oui, tout à fait.
Voilà.
Et la guitare dans cette musique minimaliste, je trouve qu'elle va bien. Elle a une carte à jouer, comment ça se fait ?
C'est sa place, naturelle, à la croisée des chemins entre le classique, le populaire. C'est vraiment ce qui fait l'identité de l'instrument depuis toujours. On veut nous souvent cantonner la guitare à l'aspect uniquement populaire, mais la guitare, elle a toujours été à la cour, elle a toujours joué aussi des musiques savantes. Et justement, les musiques minimalistes, c'est encore une fois à la croisée des chemins. Mais dites-moi qu'elle a beaucoup travaillé sur le corps. Et sur la voix. C'est une grande chanteuse, danseuse, elle a travaillé beaucoup avec des chœurs. Et on retrouve cette énergie voilà, dans la pièce qu'on a entendue. Et pour nous, c'est aussi génial en concert de pouvoir crier, frapper des mains.
Bien sûr,
une autre type d'énergie, c'est fantastique.
Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut un peu parler de pédagogie ? Vous enseignez tous les deux à haut niveau. Et une première question générale, quel regard vous portez sur le monde de la guitare aujourd'hui ? Sur le monde, je parle des jeunes guitaristes.
Oui, il y a un niveau qui est exceptionnel par rapport à nous quand on était jeunes.
Tout à fait.
Je pense qu'il y a eu une évolution incroyable.
Disons qu'il y a des gens forts, il y en a toujours eu.
Oui.
Hein, il y a toujours eu des gens d'un très haut niveau, mais c'est la moyenne qui a monté. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, moi je trouve que c'est une sorte d'âge d'or. Il y a même une émission de guitare sur France Musique.
C'est ça. C'est fou, c'est un signe. Et les étudiants voient aujourd'hui un nombre de profs quand même très important. Ils parcourent le monde, ils vont d'académie en académie. C'est aussi donc pour rencontrer des gens, pour se faire du réseau. Est-ce que ça change ça, la façon d'enseigner ?
On est moins dans des chapelles, des écoles.
Oui.
Là, je pense que la guitare a peut-être un peu souffert des oppositions de chapelles. Maintenant, il y a plein de façons de jouer et chacun navigue de manière un peu plus libre et peut-être avec un petit peu moins de dogmatisme que par le passé. Et ça aussi, c'est un grand bonheur.
Oui, ça libère un peu l'instrument.
Je suis d'accord.
Alors, si on revient à votre programme, est-ce qu'il y a un enregistrement prévu ? Est-ce qu'il y a des concerts ? Est-ce qu'il y a une petite actualité qui arrive ?
Oui, alors il y a des concerts. On va jouer au Musée Matisse, notamment cet été, pendant le festival Nice Classic Live. Et on a un concert prévu au Théâtre de Valence pendant le festival Drum de Guitare en octobre. Et par ailleurs, on a un projet de disque, mais voilà, qui est en devenir, hein, autour de Meredith Monk. Il se trouve que dans la préface de ses œuvres pour piano, après avoir travaillé ses pièces, un jour j'ouvre la préface et puis je tombe sur cette phrase où elle dit que les compositeurs qu'elle a admirés, qui l'ont inspirée, c'était Bartok, Satie et Monpou. Monpou qui est un de nos compositeurs favoris. Donc là, on s'est dit il y a un truc à faire, et du coup on a construit un programme autour de, enfin, qui fait dialoguer les œuvres de Monk avec des œuvres de Bartok, Monpou, Satie. Mais bon, c'est complètement en devenir, sachant qu'on n'a pas encore les droits pour les arrangements et que c'est un projet.
Très bien. Projet à suivre. Allez, on va vous écouter dans un deuxième extrait. Il s'agit du premier mouvement de la suite opus 14 de Béla Bartok, donc originellement écrit aussi pour le piano et ici joué par les deux guitares de Rémi Jousselme et Tristan Manoukian. Rémi Jousselme et Tristan Manoukian, merci infiniment d'avoir été avec nous à ce micro. On se quitte avec la musique éternelle, Sylvain Luc et les Beatles. La semaine prochaine, le canoun et notamment celui de Farah Fercy. Et en attendant, vous pouvez nous écrire, consulter nos programmes, regarder nos vidéos, bien sûr vous abonner à nos podcasts sur le site et l'appli Radio France. Passez un très bon week-end, prenez bien soin de vous. Merci à Anne-Lise Assada et Annie Comier de m'avoir aidé à la réalisation de cette émission, ainsi qu'à Bruno Mourlan à la technique et à Alix Fernandez au soutien moral.
À réécouter sur francemusique.fr.